À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, ça y est, c'est la rentrée sur Radio Pulsar et on commence les directs avec votre émission Séquence Midi, votre émission d'actualité locale quotidienne du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr des invités. Aujourd'hui, on va parler logement, logement étudiant parce que vous verrez que ça coince, notamment une résidence qui n'ouvrira pas ses portes en septembre et des étudiants qui se retrouvent à la rue. Et puis, on parlera de la situation des pharmacies puisque la réglementation change et que vous verrez que ça risque de poser des problèmes économiques sérieux. Et enfin, on parlera de la Fédération des centres sociaux de la Vienne avec un changement de gouvernance. Et tout de suite, on accueille Julien Delage, qui est coprésident du syndicat FSPF de la Vienne, le syndicat des pharmaciens d'officine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est une information qui est passée au niveau national, hein, la baisse du plafond des remises sur les médicaments génériques. Et on va comprendre avec vous qu'est-ce que ça risque de changer pour les pharmacies et pourquoi vous aviez prévu de vous mobiliser en septembre. On reviendra sur les modalités de la mobilisation puisqu'on sait qu'au niveau national, c'est en train de bouger au niveau gouvernemental notamment. Alors déjà, nous expliquer un petit peu comment fonctionne un peu le modèle économique, on va dire, d'une pharmacie et la place des génériques dans ce modèle.
Les génériques occupent une place importante par l'organisation qui était faite depuis une dizaine d'années et du modèle économique qu'ils représentent. C'est un choix qui a été fait par le gouvernement depuis 10 à 15 ans. Le texte qui est paru le 4 août dernier remet en question l'équilibre économique des officines. Équilibre économique qui est déjà devenu très fragile depuis une quinzaine d'années. L'ensemble des mesures dont vous entendez parler annuellement concernant les économies sur la sécurité sociale se portent dans l'immense majorité sur le médicament. Et contrairement à l'idée reçue que vous pouvez avoir et que beaucoup de vos auditeurs ont peut-être sur l'économie des officines, celle-ci est devenue très très tendue. Une officine sur deux présente une trésorerie négative. Tous les bilans, tout est compliqué. Nous faisons face à un État qui nous semble complètement schizophrène en nous demandant toujours plus. Dans le même discours, on nous annonce ces modifications des règles économiques et on attend en même temps de nous tout un tas de nouvelles mesures, de pallier aux déserts médicaux, de s'engager dedans la prévention plus encore que nous le faisons.
Nous ne pouvons pas nous faire. Sur toutes ces missions, effectivement. Alors, ce plafond de remise sur les médicaments génériques, ça paraît un petit peu flou. En quoi ça consiste?
Je pense que c'est donc oui, il y a un plafond, une remise maximum qui est accordée sur nos achats de génériques qui nous est accordée. Mais encore une fois, c'est le gouvernement qui a mis en place ces remises. Ne craignez rien, elles sont totalement légales, connues, prises en compte par des officines au niveau macroéconomique. Donc, peu importe les remises, c'est un modèle économique qui est remis en question. Après, c'est un détail que l'on nous accorde, que l'on transfère ces remises sur d'autres lignes tarifaires, sur des honoraires, sur des choses comme ça. Nous ne demandons que ça, si vous voulez. Sauf que là, on baisse ce plafond. Donc, on enlève par cet arrêté 30 à 40 000 euros de résultats par officine. Donc, 30 à 40 000 euros de résultats, c'est au minima un salaire dans une pharmacie. Au pire, vu ce que je vous disais précédemment, c'est éventuellement un risque de fermeture. Bon, c'est pas... Depuis 10 ans, nous avons chaque année entre 250 et 300 pharmacies qui ferment chaque année en France. Les estimations les plus optimistes laissent à penser que pour 2026, ça pourrait être 800 à 1000 pharmacies qui fermeraient en France. 800 à 1000 pharmacies, ça veut dire une dizaine dans notre département. Donc les conséquences peuvent être pour vos auditeurs et pour les malades, les utilisateurs de toutes les pharmacies, vraiment très très lourdes de conséquences.
Et quelles sont les officines les plus à risque, on va dire, qui craignent le plus ces baisses de revenus, pour simplifier?
Toutes les officines peuvent être concernées. Par contre, si vous avez une officine qui doit fermer en plein Poitiers, ce sera à titre personnel et pour le confrère concerné, c'est une catastrophe personnelle. Par contre, ce n'est pas forcément une catastrophe pour l'accès aux médicaments. Vous avez une trentaine de pharmacies dans Poitiers, ils trouveront. Par contre, si vous êtes à Mont-sur-Gaine, à Maupré-Voire ou dans d'autres territoires extrêmement ruraux, et vraiment, je cite ces pharmacies en tout hasard dessus, mais vraiment, en parlant de territoires ruraux, ça veut dire que si cette pharmacie n'est plus là, ces patients qui sont souvent, on sait la moyenne d'âge des patients, des habitants des communes rurales qui est plus importante, c'est véritablement un énorme handicap qu'ils vont rencontrer.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement des nouvelles missions qu'on vous a attribuées? Donc, il y a la vaccination, il y a un peu plus d'accompagnement presque paramédical.
Bien sûr, ça fait 5 ans et les choses s'accélèrent d'année en année. La pharmacie aujourd'hui est le pivot de l'ensemble de la vaccination, tant par l'injection de la vaccination que par la prescription qui est aujourd'hui possible. Depuis un an, nous avons la possibilité de faire des tests de dépistage, donc des TROD très exactement, selon les résultats d'une prise de sang, d'un prélèvement au niveau de la gorge, on va pouvoir prescrire un antibiotique, effectivement. Tous ces actes sont confiés aux pharmacies, non pas en se disant mais les pharmacies sont merveilleuses pour pouvoir faire ça, tout simplement parce que l'état de l'accès aux médecins, aux services de soins, n'est plus en état d'assumer ces besoins. Donc on demande aux pharmacies de l'assurer.
Et alors, quelles seraient les alternatives pour compenser ces pertes de revenus des pharmacies, sans nuire à la santé financière des établissements?
Au-delà de ça, la question n'est pas de compenser la perte, c'est de faire marche en arrière. Pourquoi? L'impact de ça, a un effet sur la santé des Français. Une première conséquence, ça va être les ruptures qui vont à nouveau s'accélérer. À ce sujet, je rajoute aussi, sur la chance des Français, la nouvelle idée qui vient de naître de doubler le montant des franchises. Dans le prochain projet de loi de financement de la CEQ, Monsieur Bayrou propose, dans la petite enveloppe de ses 44 milliards d'économies, de passer de 50 à 100 euros le reste à charge annuel qui peut rester aux patients sur leurs médicaments. Ça, ce sont les plus fragiles qui vont être touchés. Surtout quand ça s'accompagne simultanément du discours qui nous dit que surtout ces économies sont faites sans augmentation d'impôts, celui-ci, il est simplement doublé. 100% de plus d'impôts sur une seule aide. Donc, c'est très important. Vous avez donc la santé des Français, vous avez la santé des territoires. Parce que une pharmacie, c'est pas simplement un lieu de dispensation de médicaments, c'est aussi un lieu d'écoute, d'accueil, d'orientation. Et au-delà de ça, que vous imaginiez quand même, c'est aussi, si vous vous promenez dans nos campagnes, vous voyez partout des municipalités qui mettent recherche médecin désespérément. Le jour où vous n'avez plus la pharmacie, rapidement les infirmiers s'en vont, mais il est complètement illusoire, déjà que c'est très difficile, il est complètement illusoire de faire revenir un cabinet médical alors que vous n'avez plus de pharmacie. Donc vous agissez aussi sur les territoires. La santé des pharmacies, c'est aussi, je vous disais, au pire fermeture, au mieux licenciement. Licenciement, il y a 150 000 salariés en gros dans les officines en France. On ne comprend pas quel est le motif de ces quelques millions d'économies, ces 200 à 300 millions d'économies qui sont faites, qui sont vitales pour le réseau des pharmacies. Imaginez que les officines de France soient chacune obligées de licencier une personne de leur équipe. Ce n'est pas 200 millions qui vont être perdus, ça va être 800 millions qui vont être perdus par l'assurance chômage. Si vous mettez 20 000 fois 2 000 fois 12, parce qu'il y a 12 mois dans l'année, vous vous retrouvez avec des montants bien plus importants. Le système de soins dans son entier est attaqué aussi par cet arrêté, puisque je vous évoquais ces différentes nouvelles missions et le côté filtre que nous exerçons au quotidien aussi. Et tous les jours, nous avons des patients qui viennent nous voir, que nous orientons, que là, il faut que vous consultiez, là, on va attendre, tenez, essayez ça, dans 48 heures, on fait le point. C'est des dizaines de consultations dans chaque officine qui sont reportés, orientés différemment. Donc ce rôle de filtre, il évite que nos confrères généralistes, que les urgences soient complètement engorgées. Et alors, la question qui se pose, c'est pourquoi, qui est le gagnant de cet arrêté ?
Et alors la question, c'est que vous aviez prévu de vous mobiliser là au mois de septembre, c'était le 18 septembre. Entre-temps, il y a eu le mouvement Bloquons tout le 10 septembre, puis l'annonce du vote de confiance le 8 septembre. Là, est-ce que vous êtes déjà fixé sur comment vous comptez vous mobiliser ou...
Nous, pour l'instant, nous faisons tout pour organiser le 18 septembre. Ce que nous avons prévu, c'est un rassemblement Place d'Armes à Poitiers. Nous solliciterons éventuellement une rencontre par Madame la maire de Poitiers, par le préfet, bien entendu. Si vos auditeurs s'inquiètent, et je pense, et ils ont lieu en tout cas de s'en inquiéter des perspectives qui sont face à nous par rapport à leur santé, ils peuvent nous rejoindre à partir de 10h le 18 septembre. Et au-delà de ça, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller dans n'importe quelle pharmacie, signer la pétition qu'il y a, une pétition en ligne qui recueille à peu près 400 000 signatures actuellement, et surtout une pétition papier où les chiffres montent rapidement, mais on est plutôt entre 4 et 5 millions de signatures. Ils peuvent aussi aller rencontrer leur maire, leur député, pour leur dire leur attachement à ça. La seule petite ombre qu'il peut y avoir au 18 septembre, c'est si l'évolution politique faisait qu'il y avait à l'issue du vote une dissolution, la question se pose encore du maintien ou non, parce qu'à quoi bon s'il n'y a plus de députés, notre action doit être sur les députés si on est en campagne électorale, mais voilà, peut-être que quand même symboliquement il faudra le maintenir.
Merci beaucoup Julien Delage. Donc je rappelle que vous êtes coprésident du syndicat FSPF de la Vienne, le syndicat des pharmaciens d'officine, et donc que vous vous mobilisez le 18 septembre pour sauver vos officines. Merci bien.
Merci à vous.
On continue en musique avec Joanne Radao, découverte du chantier des Franco l'année dernière, auteure, compositrice, interprète et productrice. La jeune franco-malgache incarne une nouvelle génération d'artistes pluriels et inspirés à la croisée des sons et des cultures. Voici son titre, Géline. Du bien, j'élimine de rien.
Pulsar.
Pulsar.
Radio curieuse et citoyenne.
Et pour parler de la rentrée étudiante et surtout des galères de logement, on accueille Anaëlle de l'Union étudiante. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ça y est, 1er septembre, tout le monde est de retour sur le campus. Mais vous, vous êtes mobilisée dès cet été quand vous avez appris qu'une résidence étudiante, toute nouvelle, Les Belles Années, devait normalement ouvrir en septembre et qui a décalé son ouverture en novembre. Comment vous avez découvert déjà la nouvelle, vous ?
Du coup, nous, on a des étudiants qui nous ont contactés à l'Union étudiante de Poitiers pour nous informer de cette dinguerie, quoi, du fait que, en gros, là, leur rentrée, donc, qui commence maintenant, ils vont la faire sans aucun logement parce que la résidence n'ouvre finalement qu'en novembre. Donc, c'est la nouvelle résidence Nouvelle Vague, donc elle s'appelle, du groupe Les Belles Années, qui existe depuis déjà plusieurs années. Il faut savoir que ce problème s'est déjà produit parce que nous, dès qu'on a appris ça, on a lancé un appel à témoignages pour que les étudiants puissent s'en saisir et nous en informer. Et en fait, on a appris que ce problème s'était déjà produit il y a plusieurs années. Et du coup, les étudiants nous ont expliqué que ce qu'ils avaient été obligés de faire, c'est d'aller dormir chez des amis, donc en changeant tous les trois jours quoi, de personne. Mais en fait, ça veut dire des étudiants qui, le jour de la rentrée, se retrouvent sans domicile fixe pendant trois mois. Avec un stress énorme, surtout pour les L1 qui entrent cette année. C'est vraiment leur première rentrée à la fac, c'est sous le coup de la précarité étudiante, c'est sous le coup du sans-abrisme étudiant. Et ça, malheureusement, c'est une réalité qu'ils vont retrouver tout au long de leurs études. Mais c'est vraiment dès le premier jour, ils se rendent compte du parcours du combattant que c'est d'être étudiant, et notamment avec le logement.
Donc SDF, c'est ça, dès la rentrée. Mmh. Cette résidence, elle est construite à quel endroit ?
Elle est construite de manière assez excentrée quoi, de Poitiers. Mmh. Enfin, aussi, le campus est déjà très très loin du centre. Donc à Poitiers, c'est déjà très compliqué quand on est étudiant de pouvoir se loger proche de son lieu d'études. Ça veut dire du temps de transport très long, ça veut dire aussi de la fatigue accumulée tous les jours. Et en plus, cette résidence-là, actuellement, il faut savoir qu'elle a pas de... enfin, qu'elle n'est pas raccordée à l'eau, qu'elle n'est pas raccordée à l'électricité. On nous a même dit qu'il y avait des pigeons qui avaient fait leur nid quoi, dans la résidence. Mais au-delà de ça, ce qui est hyper grave, c'est qu'en plus, elle coûte hyper cher. Elle coûte 500 euros par mois pour les étudiants. Et ça veut dire que quand la bourse maximale d'un étudiant, elle va être jusqu'à... elle peut être maximum à 635 euros quand on est vraiment à l'échelon maximal. Ça veut dire que pour les étudiants qui touchent même pas cette bourse-là, en fait, il ne leur reste plus rien à vivre pour le reste du mois. Ils sont obligés de se débrouiller par d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins. Voilà.
Alors, ils ont sans doute droit aussi aux APL, mais il n'empêche que c'est des coûts effectivement importants pour un logement étudiant. Combien d'étudiants et étudiantes sont concernés par ce retard ? Est-ce que vous avez une évaluation ?
Du coup, c'est 130 étudiants qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain et qui vont devoir chercher... soit un autre endroit où se loger, mais il faut savoir que le marché de l'immobilier, notamment à Poitiers, est déjà c'est déjà hyper plein, c'est hyper compliqué de trouver un logement. Il y a un logement étudiant du Crous pour 10 étudiants, ce qui veut dire que c'est impossible de trouver un logement Crous. Du coup, c'est des étudiants qui vont forcément devoir trouver une autre solution. Ça va être soit rester chez leurs parents et faire des temps de transport encore plus longs que ce qu'ils auraient déjà eu, soit devoir dormir chez des amis, mais donc être dans une situation sans domicile fixe, quoi.
Et alors vous, en tant qu'Union étudiante, est-ce que vous avez des pouvoirs de mobiliser est-ce que vous avez pu entreprendre des actions pour les soutenir ?
Du coup, déjà, à l'échelle nationale, on vient de sortir un dossier de rentrée où on a notamment sorti des chiffres sur le logement étudiant et sur la précarité étudiante, où on a montré qu'en fait, un étudiant en moyenne paye 7 392 euros par an, là où du coup, la bourse maximum elle est de 6 335 euros, ce qui veut dire que... Par essence, en fait, l'étudiant rentre le 1er septembre avec 1 000 euros de découvert sur son compte, à moins de trouver d'autres moyens, donc soit se salarier, soit demander de l'argent à sa famille, mais donc ne pas être indépendant, ou alors échouer ses études, parce que le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec en licence. Du coup, déjà, nous, on a sorti un dossier, parce que les chiffres, c'est déjà important de les montrer, quoi, de montrer la réalité du terrain, de ce que les étudiants vivent. Et d'ailleurs, des fois, on ne se rend même pas compte qu'on vit ce parcours du combattant. Et du coup, nous, on a déjà sorti ces chiffres-là. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est continuer à se mobiliser jusqu'au 10 septembre, où là, on va prendre notre part pleine et entière dans le mouvement, parce que on estime que le budget Pailloux, il est délétère aussi pour les étudiants, pour le pays, mais aussi pour les étudiants. L'an dernier, on s'est déjà mobilisé contre l'austérité. On a mené une mobilisation dans plus de 50% des facs, et notamment à Poitiers, où on était 1 000 en AG, quoi, et parce qu'il y avait 1,2 milliard de coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur.
Et alors, c'est intéressant, là, les chiffres que vous venez de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres réalités comme ça que vous avez pu mettre en avant grâce à ce dossier de rentrée?
Bah, déjà, on montre qu'il y a un étudiant sur deux qui ne mange pas à sa faim dans la France de Macron. Ça veut dire que bah, concrètement, dans l'amphi, quand vous regardez vos deux voisins, il y en a un des deux qui ne mange pas à sa faim. Aussi, il faut savoir qu'un étudiant sur 10 vit avec des nuisibles dans son loyer. Enfin, dans son logement. Donc, ça veut dire que bah, concrètement, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes fatigué, vous avez des cafards, vous avez des moisissures aussi dans votre logement. Et c'est 7 étudiants sur 10 aussi qui vivent avec des nuisances qui peuvent être sonores, qui peuvent être avec des lumières la nuit, ça va être bah, du coup les nuisibles, etc. Mais ça veut dire que c'est des étudiants qui sont obligés de déjà faire des trajets très longs pour aller jusqu'à la fac. Ensuite, des journées de cours qui sont épuisantes, ils rentrent chez eux et le parcours du combattant, il continue même dans leur propre logement avec les galères qui y continuent. Donc même quand on a trouvé un logement, bah, les galères continuent même là-bas, quoi. Et voilà.
Est-ce que vous êtes entendu pour ces questions de logement à Poitiers? Alors là, c'est une résidence en particulier, hein, où il y a eu un cafouillage en termes de construction, mais globalement, pour qu'il y ait plus de logements étudiants?
Bah déjà, le problème, c'est que là, cette résidence, donc, elle est privée. Mais en fait, s'il y a besoin de recourir à des résidences privées, c'est parce qu'il n'y a déjà pas assez de résidences dans le public par le CROUS et il y a un manque d'investissement de l'État. Parce que Macron avait promis 60 000 nouveaux logements déjà il y a quelques années au début de son mandat et qui ne sont toujours pas arrivés. Mais du coup, en fait, quand il y a une pénurie de logements dans le public, bah, c'est le privé qui peut avoir une mainmise sur le logement étudiant. Et donc ça fait augmenter.
Coûts,
oui, et sur les coûts. Et en plus, ça fait augmenter le marché d'immobilier pour tout le monde. Et en plus, bah, une fois que. Le public n'a pas de recherche de profit, de rentabilité, alors que le privé, si. Et du coup, pour faire plus de profit, plus de rentabilité, ce qu'ils vont faire, ça va être arnaquer les étudiants, donc avec des logements qui ne sont insalubres, qui sont moisis, ou alors leur faisant payer plus cher, leur donnant des logements trop petits. Il faut savoir que, bah, du coup, dans notre dossier de l'Union étudiante, on a mis en avant qu'il y a un étudiant sur 10 qui vit dans moins de 9 mètres carrés. Donc voilà, c'est des logements trop petits, des logements très lents de la fac. Et ça, c'est parce que le privé peut prendre sa place, peut prendre sa part, et du coup, se faire de l'argent sur le dos des étudiants précaires.
Donc là, le prochain rendez-vous de mobilisation concrète, c'est le 10 septembre avec l'ensemble.
Voilà, bah, du coup, le 10 septembre, nous, ce qu'on va porter à l'Union étudiante et avec les étudiants de toute la France, ça va être un revenu d'autonomie. Donc nous, notre revendication, c'est 1 288 euros par mois pour tous les étudiants, que ce soit même les étudiants étrangers qui viennent faire leurs études en France. Il y en a notamment beaucoup à Poitiers qui sont extrêmement précaires. Et il y a une énorme nécessité, quoi, de faire ce revenu d'autonomie pour que bah, les étudiants sortent de la précarité. Et on va aussi revendiquer bah, la création de 300 000 logements en urgence et 600 000 à terme. Voilà, ça, c'est vraiment une nécessité, quoi, pour que tous les étudiants puissent se loger. Et université, bien sûr, gratuite et ouverte à toutes et tous.
Merci beaucoup, Anaëlle. Donc, vous représentez l'Union étudiante de Poitiers et merci de nous avoir expliqué cette situation du logement suite à ce problème de construction d'une résidence. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre rencontre du Toit du Monde avec Dominique Royou, c'est Céline Chartier pour un changement de gouvernance à la Fédération des centres sociaux et socioculturels de la Vienne.
Bonjour Céline Chartier, tu es pour le moment chargée de mission à la Fédération de la Vienne des centres sociaux, bientôt co-déléguée de cette fédération avec Céline Martineau. Comment se passe ce changement de gouvernance et de direction à la Fédération qui succède à Denis Renaudin?
Oui, en effet, Denis, on va lui dire au revoir bientôt. Denis Renaudin, qui a été délégué de la Fédération pendant une vingtaine d'années. Il a grandement développé le réseau, notamment en milieu rural. Et on prend la suite avec ma collègue Cécile Martineau, qui est ma collègue depuis une dizaine d'années, pour cette délégation.
Voilà, très bien. Et donc, c'est un moment important pour la Fédération, puisqu'on parle beaucoup de l'actualité des centres sociaux aujourd'hui, dont plusieurs sont en grande difficulté, ou en grande difficulté financière. Est-ce que tu peux nous dire comment la Fédération voit la situation de ce côté-là, l'analyse et apporte éventuellement un soutien ou des débuts de solutions?
Tout à fait. Les centres sociaux dans la Vienne, certains sont en difficulté. On est, comme les entreprises, les collectivités ou les familles, on a été très impactés par l'inflation, par l'augmentation des coûts de l'énergie. Ça fait augmenter les charges de fonctionnement des centres sociaux. On a également les salaires qui ont été augmentés pour maintenir l'emploi dans les centres et valoriser le bon boulot que font nos animateurs. Ça a contribué à augmenter la masse salariale et donc les dépenses des centres sociaux. On a, parallèlement à ça, une baisse ou une stagnation des subventions.
Alors, les subventions de qui ? De subventions des villes, je crois, des collectivités, c'est à peu près maintenu, ainsi que celles de la CAF. C'est peut-être pas le cas de tous les contributeurs.
Tout à fait. On a des collectivités locales, notamment en milieu rural, qui ont été très soutenantes de nos centres sociaux, qui ont maintenu ou qui n'ont au moins pas diminué les subventions qu'elles donnaient aux structures. On a une vraie reconnaissance en ça des collectivités, des services et des activités que mettent en place les centres socioculturels. Du côté de la caisse d'allocation familiale, il y a un soutien indéniable au niveau local et national, puisqu'elle a mis en place un fonds d'aide exceptionnel pour soutenir les structures les plus en péril. Là où on est le plus inquiet, c'est, alors bien sûr, dans la Vienne, le conseil départemental, mais ailleurs en France, c'est pareil, on a une baisse d'environ 10% des soutiens aux structures associatives. Et pour l'État, on a également une baisse des soutiens financiers pour les politiques de la ville, tout ce qui est lié à l'emploi, tout ce qui est lié à l'éducation, à la culture ou à l'intégration.
Oui, parce que ça se fait parfois sous forme d'appel d'offres aussi, que les centres obtiennent ou n'obtiennent pas.
Tout à fait. Ce sont des appels à projets.
Alors, quel moyen la fédération ou quelle association, peut-être avec d'autres structures, elle compte faire et elle compte programmer dans les prochaines semaines ?
Tout à fait. Notre fédération nationale nous invite à nous mobiliser le 11 octobre aux côtés d'une autre grande tête de réseau, le mouvement associatif. On s'est dit que si on faisait force et si on faisait du bruit et si on racontait la force des associations sur le territoire... Ce serait mieux. Enfin, l'union fait la force. Et également une autre mobilisation le samedi 13 septembre, là cette fois plus locale, à Poitiers, à Buxerolles même très exactement, pour soutenir le Toit du Monde.
Merci beaucoup. On parlera un peu de cette actualité brûlante régulièrement, je pense. Merci beaucoup, Céline.
Merci.
Et merci Dominique Royou du Toit du Monde pour cette rencontre. Demain, dans Séquence Midi, on continuera à parler logement des jeunes avec Poitou Habitat Jeunes qui déploie 9 tiny houses dans des communes périurbaines et rurales de Grand Poitiers. Et puis, on découvrira aussi un film sur l'Académie de chant de Sensé avec son réalisateur Denis Victo. Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Avec tout au long du mois de septembre, les 3T, la scène conventionnée de Châtellerault, qui vous propose un mois de septembre 100% gratuit avec au programme de représentation de saison dans Grand Châtellerault, une visite d'exposition, une veillée, des ateliers de danse, une ouverture de saison festive et une sortie de résidence qui fait la part belle à la musique. Ça commence avec Radiorama de la compagnie Le Théâtre dans la forêt d'Émilie Le Borgne. Composé de nuages puis ouragans, Radiorama est une installation d'écoute immersive qui invite à redécouvrir 27 fragments d'œuvres classiques littéraires dans un paysage unique de Alice au Pays des Merveilles à Frankenstein. Elle nous offre une expérience inédite mêlant fiction et panorama. Ça, c'est jusqu'au 21 septembre sur le site de la Manu. Et puis, il y a plein d'ateliers qui font leur rentrée, bien sûr. Des ateliers sommeil, par exemple, dans divers communes, notamment à Quincey, mais aussi à Bignoux. Donc, c'est la MSA Service Poitou qui organise ces ateliers. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, le Club Cœur et Santé de Poitiers qui fait sa rentrée aussi la semaine prochaine. Mais les inscriptions, c'est... aujourd'hui, notamment au gymnase de Belle-Jouanne de 17h30. Et puis sur Pulsar, vos émissions bénévoles font également leur rentrée avec à 18h And The Tap Trips, à 19h X-Build pour la bande dessinée, à 20h c'est Punks, bien sûr. Leur petit message, pense à bien mettre dans ton cartable ton cocktail Molotov, ta bombe de peinture, une paire de docks de rechange, ton gel à crête et tes autocollants Antifa. Voilà, Punkitude et lutte de classe, voici le programme de la rentrée sur Punks. Et à 21h, c'est bien sûr Scrognonieux. C'était Yann à la réalisation technique. Voici un extrait de Laïe Gross, le titre Bailarine. Donc c'est son dernier album de cette reine de la Nukumbia. Voici donc l'album Az. Bonne écoute et à demain.
Me acerco, vuelvo al mismo lugar. c'est le moment fait bailar. Voir con tu movimiento, je mi propio lugar. Voir con tu sentimiento, y yo que quiero otro despertar. Bailarín de los sensores.